Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie pop culture et musique savante. Dans cet épisode, un jeu vidéo baroque et gigantesque. Final Fantasy VI, le sixième épisode d'une saga très appréciée des joueurs, développée par Square, sortie en 1994. Pour vous donner une idée de la popularité de la série, si vous ne la connaissez pas, le dernier épisode, Final Fantasy XV, a été vendu à 9 millions d'exemplaires, un peu moins que le numéro 7, épisode culte lui aussi, acheté par plus de 12 millions de personnes, et ce chiffre va sans doute encore beaucoup augmenter puisque Sony est en train de sortir un remake sur PS4 de Final Fantasy VII. Cette série, c'est l'une des meilleures représentantes du JRPG, le jeu de rôle japonais. Un genre qui était très codifié à son origine. Généralement, on retrouve une équipe de 4 héros qui doivent voyager dans un univers médiéval, explorer des donjons, combattre, tout ça pour sauver le monde. Avec Final Fantasy VI, ces codes commencent à exploser. Le jeu est très sombre, moins manichéen que les précédents, plus mature. Et surtout, les héros, qui sont particulièrement nombreux, n'arrivent pas à éviter l'apocalypse. La deuxième partie se déroule après la fin du monde, dans un monde en ruine. L'atmosphère est étrange, un mélange de Moyen-Âge et de technologie. C'est parfois grotesque et il y a des scènes qui ont marqué des millions de joueurs. Un train peuplé de fantômes dans une forêt et surtout une scène à l'opéra qui a la particularité d'être devenue un véritable opéra. Comment est-ce qu'on a pu créer un opéra en pixels? Comment ce passage s'est fait? Pour répondre à ces questions, j'ai discuté avec Romain Dasnois. Il est auteur de plusieurs ouvrages sur la pop culture et notamment d'une histoire de Final Fantasy VI, livre paru en 2017 aux éditions Pix & Love. J'ai commencé par lui demander pourquoi les héros, qui ont pour mission urgente de sauver le monde, prennent le temps de s'arrêter à l'opéra.
Pour sauver le monde, justement, les héros ont besoin d'un personnage qui possède une arme qui leur sera très utile. C'est un aéronef, donc un engin volant. Mais ce personnage est un peu facétieux. Il aime bien les jeux d'argent, il aime bien les femmes, il aime bien l'opéra. Et donc, pour l'attirer, les héros se rendent dans un véritable opéra et monte un stratagème. Ce personnage fantasque qui s'appelle Setzer est amoureux d'une cantatrice. Les héros décident de placer l'une d'elles à la place de la cantatrice. Cette héroïne va devoir d'ailleurs apprendre sa partition pour jouer l'opéra et pour pouvoir se faire enlever par Setzer. Une fois enlevés, les héros se retrouvent dans l'aéronef avec ce personnage et réussissent à le convaincre de participer à l'aventure.
On va écouter cette fameuse scène. Il faut imaginer un théâtre à l'italienne, un orchestre, tout ça en pixels et sur scène des personnages qui chantent. Cet opéra, il a été nommé Maria et Draco, on ne connaît pas le compositeur dans le jeu. Qu'est-ce que ça raconte?
Alors c'est un opéra extrêmement classique, on est vraiment dans la culture romantique pure, on peut citer Claude Debussy, c'est l'un des grands instigateurs, inspirateurs plutôt, des compositeurs de ce type de jeux vidéo, qui sont japonais mais qui ont une culture européenne très forte. Donc c'est tout simplement une histoire d'amour, c'est Roméo et Juliette qui est développée comme ça dans Final Fantasy VI.
C'est donc Céleste, la générale de l'Empire, qui va devoir incarner Maria. Au joueur de choisir le bon texte du livret entre plusieurs propositions. La représentation, elle, ne se terminera pas. Elle sera interrompue par une grosse pieuvre violette venue semer la pagaille. Et dans cette pagaille, Céleste sera, comme prévu, enlevée par Selzer. Cette scène, on ne sait pas vraiment qui l'a imaginée dans le développement du jeu, mais on sait qui a composé la musique. C'est Nobuo Uematsu, un compositeur japonais qui est devenu l'un des très grand compositeur de musique de jeux vidéo.
Oui, tout à fait. Uematsu, c'est le compositeur de jeux vidéo le plus joué au monde. Il y a une tournée de concerts qui existe depuis plus de 10 ans, qui a dépassé, je crois, les 150 représentations. Et c'est pas seulement le compositeur de musique de jeu le plus joué, c'est le compositeur de musique à l'image le plus joué au monde. Donc c'est
devant certains compositeurs de cinéma.
Oui, bien sûr. On parle en termes d'œuvres. Donc Final Fantasy est l'une des œuvres, je vais prendre comme des pincettes, l'une des œuvres les plus jouées au monde de musique à l'image. Donc ça dépasse, par exemple, Le Seigneur des Anneaux ou Star Wars en termes de représentation. Évidemment, ce compositeur a fait beaucoup de choses pour en arriver là, et c'est surtout la réussite commerciale du jeu qui lui vaut cette renommée.
Justement, ce qui est intéressant, en fait, quand on regarde cette scène de l'opéra, c'est qu'en fait, on peut faire un véritable retour vers le classique, on peut remonter toute une généalogie du jeu de rôle à l'opéra.
Oui, tout à fait. Le jeu de rôle, dans son historique la plus lointaine, un jeu de sur plateau, un jeu familial autour d'une table avec un livre, ça remonte à plusieurs centaines d'années de culture et d'histoire. Et on en vient donc aux racines médiévales, aux racines de la Renaissance, et avec tout le contexte de la mythologie. Et le jeu de rôle, jeu vidéo, notamment japonais, même si c'est peut-être un peu ambigu, fait un petit peu cette continuité de cette culture très européenne, et avec surtout des cultures mythologiques comme la culture celte, la culture nordique. Et s'en fait l'écho, c'est le cas de Final Fantasy.
De Final Fantasy, on peut remonter au jeu de rôle papier, on peut remonter à partir du jeu de rôle papier à Tolkien, et de Tolkien à Wagner aussi.
Oui, oui, tout à fait. Les premiers jeux vidéo de rôle, qui n'étaient pas japonais, se sont exportés et ont très très bien fonctionné au Japon. Et il y a un trait d'union absolument évident, et qui est d'ailleurs tout à fait expliqué du propre aveu des créateurs.
Vous dites aussi dans votre livre que Final Fantasy, c'est, et même le jeu vidéo, c'est une œuvre opératique. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la conception d'un jeu vidéo et la conception d'un opéra, dans le sens où ça mobilise beaucoup d'artistes différents, de différentes techniques?
Oui, d'un opéra ou même d'un film au cinéma. Ce qui est intéressant avec l'opéra, c'est qu'on est sur des œuvres qui vont exploiter des émotions extrêmement fortes, exacerbées par la musique, par le chant, par la scène, et évidemment avec la présence d'un public, un public qui est un petit peu participatif, puisqu'il peut réagir en fonction des scènes, ce qu'on peut pas vraiment faire au cinéma, l'œuvre étant déjà enregistrée et statique. Le jeu vidéo, il y a des joueurs derrière, donc effectivement les joueurs vont réagir avec l'œuvre, et le jeu de rôle japonais en l'occurrence se fait vraiment l'écho au tout début, dans les années 90, des années 80 même, avec les cultures de l'opéra, avec les émotions, les sensibilités propres aux œuvres européennes, donc d'il y a plusieurs dizaines ou centaines d'années, parce que c'était des émotions faciles, entre guillemets, à mettre en œuvre dans des œuvres, donc le jeu vidéo des années 80 et 90, qui n'étaient pas des œuvres très bien développées, on va dire, d'un point de vue artistique ou esthétique, puisqu'on est sur voilà un jeu vidéo avec une bouillie de pixels. Donc pour rattraper cet état de fait, on développait la partie narrative et le scénario avec ce qui était de plus beau vu du Japon, la culture européenne.
Oui, parce que tous ces créateurs de jeux, ils ont baigné dans cette culture, ils ont les références occidentales et notamment les références de musique.
Oui, tout à fait, de musique. Ce sont des lecteurs, ce sont des auditeurs de musique, ce sont des gens qui sont cultivés, qui ont fait des grandes écoles et qui font du jeu vidéo. Donc ça n'est pas antinomique, mais leur culture effectivement est effectivement raccord avec les jeux qu'ils font à cette période.
Pour en venir à la partie technique, on a entendu des voix pas tellement facile à reconnaître, et pourtant à l'époque c'est vraiment un prodige d'arriver à faire entendre des voix sur une machine. On est quasiment à la préhistoire du jeu vidéo. Évolutions techniques aujourd'hui.
Oui, on est même à la préhistoire que la musique n'a même pas connue. La musique, elle est générée sur ces consoles-là par un processeur sonore. Donc la musique, elle n'est pas enregistrée et restituée par un lecteur, elle est générée directement par la console. Donc il faut écrire un code, la musique est écrite comme un code, et effectivement on a la reconstitution de voix, on a la reconstitution d'instruments, et tout cela se fait par des ondes, pour être très clair, des ondes qui vont être composées, écrites, comme on peut dire, designées spécialement pour ressembler le plus possible à des instruments de musique.
Et donc à des voix grâce à des stratagèmes, parce que quand même les limitations techniques ont encouragé le développement d'astuces, de moyens de contourner toutes ces limitations.
Alors on a entendu des voix, effectivement, ces voix elles sont ce sont des vraies voix en fait, ce sont des samples, donc en fait ce sont des échantillons de banques de sons avec des véritables voix, des banques de sons qui sont utilisées déjà au cinéma. Sauf que là, on est sur des jeux vidéo qui tiennent sur des cartouches de jeux avec des capacités de mémoire qui sont extrêmement limitées. C'est aujourd'hui, on envoie des emails tous les jours qui sont plus gros, plus volumineux que la capacité de ces cartouches-là. Donc vous imaginez, il faut envoyer des musiques, des graphismes et beaucoup de choses comme ça dans un mail. C'est très complexe. Ils l'ont fait avec des échantillons, mais qui étaient des échantillons de quelques milliardièmes de secondes, mis bout à bout, pour donner ce que l'on entend, ce qui est un petit peu risible aujourd'hui, mais qui était un véritable exploit technologique à l'époque.
Comment ça se fait que cette scène de l'opéra, ça dure une vingtaine de minutes, dans, bon, 15-20 minutes dans un jeu qui, ça dépend du rythme, mais peut se terminer entre 30 et 40 heures? Pourquoi est-ce que ça a tant marqué les joueurs? Moi, si je devais partager mon expérience, quand j'ai joué au jeu, je me souviens que ce passage à l'opéra, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était très onirique et il y avait une espèce de rupture avec le reste de l'aventure.
Alors, un jeu vidéo comme Final Fantasy, effectivement, 40 heures, les jeux actuels peuvent dépasser les 100 heures de jeu. Il y a beaucoup de phases de gameplay, donc on va combattre des monstres, on va voyager sur la carte, et il va y avoir donc des phases de narration. Les phases de narration, elles sont pas si nombreuses, il n'y a pas 40 heures de narration mis bout à bout, et parmi celles-ci, effectivement, la scène de l'opéra est absolument extraordinaire, puisque en 20 minutes, il se passe énormément de choses. Déjà, on entend un opéra en entier, alors certes, avec les capacités sonores des machines de l'époque.
Sur un email, on a bien compris.
Tout à fait, qui peut sembler, encore une fois, risible, mais qui était un travail extraordinaire, notamment du fait des contraintes. Et je pense que ça a vraiment marqué les joueurs, parce qu'en 20 minutes, on avait le concentré de ce qui se faisait le mieux à l'époque dans le jeu vidéo. On pourrait faire un parallèle assez facile avec le cinéma, il y a des films qui ont marqué, qui ne durait pas nécessairement très longtemps, mais parce que à l'époque, il était très novateur. Donc je pense que c'est à peu près la même chose.
À tel point que la musique, elle a été orchestrée dès la sortie du jeu en 1994. C'était l'album Grande Finale. Et puis, c'est devenu un véritable opéra avec de véritables chanteurs, une véritable cantatrice pour incarner Maria. On va l'écouter, mais d'abord, on écoute la version originale du fameux aria di mezzo carattere, qui est un air d'amour. Maintenant, la version de l'orchestre symphonique de la radio suédoise. Là, il faut ajouter qu'en plus d'écrire des livres sur la pop culture, vous avez une autre casquette, c'est que vous êtes organisateur de concerts, justement, d'œuvres de pop culture, et c'est vous qui avez organisé un concert Final Fantasy à Paris, dans lequel il y avait donc des extraits de l'opéra de Final Fantasy VI. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on donne naissance, pour de vrai, à une scène de jeu vidéo?
On a fait plusieurs concerts de musique de jeux vidéo, pas seulement Final Fantasy. Et la première étape, c'est vraiment de travailler avec les compositeurs, quand c'est possible. Car les compositeurs ont vraiment l'image de ce qu'ils ont voulu faire et qui n'ont pas nécessairement réussi à faire à cause des contraintes. Des contraintes techniques, comme on en a discuté tout à l'heure. Sur scène, donc, le message va être différent. Il faut donc le travailler. Ça prend un peu de temps. Et surtout, il ne faut pas trahir ce que les spectateurs attendent. Dans le cas de Final Fantasy, on a décidé de faire l'opéra. C'était l'année dernière, à Paris, pour la première fois sur scène en France, non seulement parce que c'est quelque chose qui était très attendu du public, parce que c'est une longue pièce de 20 minutes, mais aussi parce qu'il y a un certain défi musical de se dire on part 25 ans en arrière et on arrive avec les technologies d'aujourd'hui, et notamment, ce qui n'est pas du tout technologique pour le coup, les solistes, l'orchestre, un écran qui retransmet le jeu vidéo, l'extrait de la scène sur scène. Et tout ça, effectivement, sur scène, ça donne quelque chose de très puissant émotionnellement pour le public qui ne se rend pas nécessairement compte en jouant que c'est possible, en fait, tout simplement.
Et alors, est-ce que vous avez parlé avec les musiciens à ce moment-là? Est-ce que vous savez ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'ils ont joué au jeu? Est-ce que c'est une musique qui les touche?
Ça, c'est très intéressant, c'est rigolo, parce qu'aujourd'hui, on a des joueurs de génération... des musiciens de génération...
L'absurde révélateur.
Voilà, qui ont été ou qui le sont joueurs de jeux vidéo, et qui parfois ont grandi avec, tout simplement. Donc c'est assez drôle parce que à la fois ça fait partie de leur culture, ce qui n'était pas le cas il y a encore une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années. Et avant, où la culture était, elle l'est toujours, mais la culture était notamment celle du cinéma pour la musique à l'image. Les gens avaient grandi avec Star Wars ou avec des œuvres populaires, Aujourd'hui, ils ont également grandi avec les œuvres de jeux vidéo. Donc ça ne les surprend pas nécessairement au premier abord. Et puis parfois, ce qu'on me dit souvent, c'est qu'ils sont surpris par la complexité de l'écriture de la musique. Alors il faut rappeler que quand la musique est jouée sur scène, ça n'est déjà plus de la musique de jeux vidéo.
Oui, on a entendu la différence entre les deux extraits.
Il y a des arrangeurs qui travaillent dessus, qui n'ont pas nécessairement travaillé sur les jeux. Mais on est quand même sur cet ADN si particulière et on essaie de la retransmettre fidèlement.
Est-ce que vous avez eu des mélomanes, des fans de musique classique qui vous ont dit ce qu'ils en pensaient ?
Alors toujours la même surprise, effectivement, on a joué, alors c'était pas forcément en concert, mais dans mes activités, on a joué les musiques de jeux où on avait un regard très froid, mais également érudit sur la musique, et, où souvent les premières impressions, c'était pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, parce que généralement ça plaît quoi qu'il arrive, mais c'était de faire des parallèles avec des œuvres déjà existantes. Voilà, on a un compositeur, ça peut faire penser à Francis Poulenc, à un autre compositeur qui ont travaillé sur des chœurs. C'est des japonais, mais oh, ça ressemble à des chœurs grégoriens, des chants grégoriens. Donc on a surtout cette capacité des musiciens et des mélomanes avertis de faire des parallèles assez intéressants avec l'histoire de la musique.
Merci Romain Dasnoy.
De rien.
Pour résumer cet épisode, ce passage à l'opéra a pu exister car le jeu est une succession de scènes hors du commun par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et c'est pour ça qu'il a durablement marqué les joueurs. Final Fantasy VI trouve certaines de ses racines dans la culture européenne, digérée et transformée, notamment l'opéra. Et la boucle s'est bouclée lorsque ce passage du jeu a été adapté pour la scène en vrai, pour le plus grand bonheur des fans. Si l'émission vous a donné envie d'essayer le jeu, il a été remasterisé. On le retrouve aujourd'hui sur de nombreuses plateformes, y compris les téléphones portables, même si c'est clairement pas la version que je vous recommande parce que je trouve que les nouveaux graphismes sont assez laids. C'était Retour vers le classique. Merci d'avoir écouté. Pour en savoir plus, il y a le livre de Romain Dasnoy, L'histoire de Final Fantasy VI aux éditions Pix & Love. Et puis il y a le site de Radio Classique. Vous retrouverez les morceaux que je vous ai fait écouter en intégralité sur la page dédiée à cet épisode. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. À bientôt.